propose de prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te louer, t'élever parce que tu es Dieu, parce que d'éternité en éternité tu règnes et parce que nous ne sommes rien et tu as daigné jeter des regards de compassion sur nous. Père, merci pour la croix, merci pour ce qu'elle nous enseigne, merci pour la vérité, merci pour ton esprit que tu déverses à ceux qui désespérément te le demandent. Seigneur, je te prie pour que ce matin nous recevions ce que nous avons besoin d'entendre de ta part, des encouragements, des corrections, des exhortations et que nous puissions, Seigneur, repartir avec les yeux plus fermement fixés sur la gloire à venir et dans l'attente de ton retour. En Jésus-Christ. Amen. Je vous propose d'ouvrir la Bible dans Tite. Tite est une lettre écrite par Paul à l'un de ses collaborateurs, donc, qui porte le nom de Tite. Tite y avait été laissé en Crète pour terminer un travail qui était celui de nommer des anciens, c'est-à-dire des responsables d'église, qui étaient choisis selon des critères spirituels très exigeants. En effet, la parole nous apprend que les responsables doivent être un modèle d'enseignement, de piété, car ils ont la charge de conduire les chrétiens dans la sainteté, afin, dit Paul, de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Dans Colossiens 1, verset 28. Le troupeau vient en aide aux responsables en imitant leur foi dans une soumission qui est en fait une soumission à Dieu. Le troupeau est lui-même aussi appelé à rendre des comptes du temps que Dieu lui accorde sur terre pour se préparer à rencontrer le Seigneur lors de son retour. C'est d'ailleurs dans l'attente du retour prochain du Seigneur que nous trouvons une des clés de notre santé spirituelle en tant qu'Église, en tant que corps et aussi en tant qu'individu dans le corps de Christ. Nous avons besoin de nous rappeler que Christ revient pour trouver une sainte motivation à préparer son retour. Si nous cherchons de saintes motivations pour vivre pour la gloire de Dieu, il nous faut prendre le recul et mettre en perspective les temps dans lesquels nous vivons, qui sont de mauvais temps d'après la Bible. Nous devons être capables de voir en arrière l'œuvre de Christ à la croix, sa résurrection, qui proclame la banqueroute de toute créature et la victoire du Créateur. Et nous devons aussi fixer le regard vers la gloire à venir et justement garder cet équilibre pour finalement préparer le retour du Seigneur prochain. Nous devons saisir son invitation gracieuse à recevoir sa vie et enfin avoir dès maintenant les fruits qui témoigneront que nous l'avons attendu fidèlement. Dans le premier chapitre de Tite, le Seigneur, à travers Paul, rappelle les fondements de la vie chrétienne et il rappelle aussi la fidélité de Dieu. Puis Tite est rafraîchi quant à sa mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, élire des anciens capables et faire taire aussi les contradicteurs qui cherchaient à l'époque à diviser, tromper et pervertir la foi du peuple de Dieu par des enseignements humains, des traditions et autres choses qui nuisaient à la foi des chrétiens. Au chapitre 2, Paul va insister sur la conduite que chaque chrétien doit avoir. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur les versets 11 à 14 du chapitre 2, dans lesquels nous apprenons deux choses. Premièrement, nous apprenons que la grâce de Dieu est le fondement qui rend légitime ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire que c'est parce que la grâce de Dieu est suffisante que Dieu peut nous demander ce qu'il nous demande, puisqu'elle contient tout ce dont nous avons besoin pour lui obéir. Nous verrons que cette grâce est Jésus-Christ lui-même. Et nous verrons aussi ce qu'implique qu'elle a été révélée. Et enfin, nous verrons que la gloire de Dieu est son plaisir et que son peuple le glorifie par de bonnes œuvres et que le peuple de Dieu trouve son bonheur en étant satisfait de Dieu entièrement. Donc Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Le verset 11 nous dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Car la grâce de Dieu, déjà. Les mots de conjonction, vous l'avez remarqué certainement en lisant la Bible, sont importants pour comprendre quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que l'auteur de la lettre veut expliquer. Ici, il commence en disant « car la grâce de Dieu ». On apprend donc que la raison, la cause de notre sanctification est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous excite à de bonnes œuvres par ce qu'il a fait, mais c'est que la grâce même de Dieu contient cette motivation nécessaire pour faire de bonnes œuvres. Paul ne dit pas « vous avez vu ce que Dieu a fait, alors agissez conformément », mais il dit plutôt « ce que je vous commande de faire ». Je le commande parce que Dieu vous y a destiné en vous accordant les grâces nécessaires et suffisantes. N'est-ce pas là une bonne nouvelle de savoir que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour le suivre, pour lui obéir et finalement pour prendre plaisir en lui? Cependant, nous devons prendre soin de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, nous dit Paul. Car si nous ne voyons pas que Jésus-Christ est parmi nous, nous sommes disqualifiés pour le salut. Il en parle dans 2 Corinthiens sur le fait que nous avons besoin de voir qu'effectivement cette grâce de Dieu porte du fruit parmi nous. Deuxièmement, la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. Dans notre texte du jour, la grâce de Dieu ne revêt pas simplement le sens de quelques bonnes dispositions de Dieu envers des créatures comme nous, ce qui est déjà exceptionnel. Mais ici, cette grâce est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il dit « la grâce de Dieu, salut de tous les, pour tous les hommes, a été révélée », c'est Jésus-Christ lui-même qui a été révélé. Dieu n'a-t-il pas donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ? Prenons le temps d'admirer l'initiative efficace du Père, de peur d'avoir un regard déséquilibré qui nous ferait dire que seul le Fils a montré son amour, alors que c'est le Père qui a envoyé son Fils. C'est le Père qui a désiré frapper son Fils pour nous donner la paix, comme en témoignent les prophètes, notamment Ésaïe 53. Il plut à Dieu de le frapper, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Cette grâce de Dieu, parfaite et glorieuse, a accompli le salut des hommes. Nous avons besoin de comprendre le salut pour en avoir une vision et une vue qui est à la hauteur de l'œuvre de Dieu. La grâce de Dieu nous sauve de sa colère, c'est vrai. La grâce de Dieu nous sauve de l'enfer, c'est vrai. Mais malheureusement, on oublie trop souvent, à notre époque, que la grâce de Dieu nous sauve du péché. Je ne sais pas comment se passent les sorties d'évangélisation ici, mais j'en ai fait d'autres, et souvent on met en avant l'enfer, bon, c'est biblique, on a raison d'en parler, on met en avant la colère de Dieu, et il le faut, parce que Jésus en a parlé, mais on oublie que l'ange Gabriel, lorsqu'il s'adresse à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, là c'est dans Matthieu, donc c'est plutôt à Zacharie d'ailleurs, à Joseph, pardon. À Joseph, il lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Frères et sœurs, si nos cœurs ne sont pas brisés par le péché dont ils sont remplis, examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi. Car c'est l'esprit affligé de David, c'est le cœur contrit de David que le Seigneur reçoit favorablement. Mais il s'oppose aux orgueilleux. Si chacun n'est pas arrivé par l'esprit à une intime conviction que son péché est infiniment grave Nous avons besoin de prier le Seigneur pour qu'il nous le révèle, parce que Jésus a dit clairement, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui se reconnaissent malades, ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et cette histoire me frappe, celle où Jésus explique que c'est celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est lui qui aimera beaucoup en retour. Et souvent on se dit, bah, j'ai peut-être pas beaucoup de péchés, alors j'ai pas été beaucoup pardonné. Mais c'est mal comprendre ce que Jésus voulait dire. Un seul péché est infiniment grave. Alors si nous sommes pardonnés, même d'un seul péché, nous sommes infiniment pardonnés. Nous avons besoin de le réaliser pour ensuite aimer à la hauteur de la grâce de Dieu. À ceux qui croulent sous la misère de leurs fautes, à vous qui portez le lourd fardeau de vos péchés, venez à Christ, la grâce de Dieu, elle qui vous sauve. Venez, pécheurs repentants, venez au Sauveur qui peut vous garantir la victoire sur le péché. La grâce de Dieu a été révélée, manifestée, à tel point que des brigands sont devenus comme des enfants, des brigands à la croix, à côté de Christ. Des persécuteurs, par la grâce de Dieu, ont ensuite accepté d'être à leur tour persécutés pour Dieu. Nous connaissons aussi des idolâtres dans la Bible qui ont, par la grâce de Dieu, mis en place un bûcher pour y brûler toutes leurs fausses idoles. C'est le pouvoir de la grâce de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dit la parole de Dieu, aujourd'hui est le jour favorable. Soyons en paix avec Dieu. Renonçons à cette vieille nature qui fait la guerre à notre âme. Que veut dire que la grâce a été révélée? En quelques mots, la révélation de Dieu est terminée, nous sommes tous d'accord là-dessus. Par Jésus-Christ, Dieu a fini d'annoncer tout ce qui était nécessaire pour que son peuple puisse être conduit jusqu'au salut, et ce qui était nécessaire pour que l'évangile et le plan de Dieu soient révélés. Christ régnant sur toute la création, ayant été jugé digne par son œuvre à la croix. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a soumis toute la création à une gangrène connue sous le nom de mort. C'est alors que le meurtre s'est diffusé, d'abord par Caïn, qui a tué son frère, puis par chacun de nous, lorsque sans raison valable nous nous mettons en colère. C'est alors que le mensonge s'est intégré à l'ADN même de l'homme, d'abord par le père du mensonge, le diable, et puis par chacun de nous, lorsque nous nous mentons à nous-mêmes en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Pourtant, nous savons ce que Dieu a dit. Nous avons sa parole. C'est alors, lorsque le péché est entré dans le monde et avec lui la mort, que toutes sortes d'impiété, de paillardise, de mondanité, de vile passion se sont substituées à la loi de Dieu qui était dans notre cœur. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Quel malheur et quelle misère. Il nous faut juste regarder le monde, juste regarder les infos. Et j'ai envie de dire, essayons de nous discipliner à ne pas regarder trop loin, regardons-nous nous-mêmes. Mais Dieu, et comme il est pieux et juste d'élever son nom au-dessus de tout, Dieu a mis à exécution son plan rédempteur et bienveillant. Tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Jusqu'à la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les croyants du peuple de Dieu ont espéré en Christ lui-même, déjà, conformément à la promesse qu'on trouve notamment dans Genèse 3 au verset 15. Tu nous l'as lu tout à l'heure, effectivement. Je mettrai l'inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Abraham, Moïse, David et bien d'autres héros de la foi ont espéré dans cette même bonne nouvelle que aujourd'hui nous avons pu contempler sans le voile. À la différence d'eux, nous avons la grâce de savoir que Christ est déjà venu, a déjà vaincu. comme en témoigne le système religieux qui était mis en place par Dieu lui-même, Christ ne leur était voilé. Cela était l'ombre des choses à venir, comme on dit. Chaque sacrifice, chaque offrande pour l'expiation était une annonce de la parfaite expiation de Jésus qui devait arriver. Nous n'avons pas le temps de nous plonger plus en précision dans tout ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament concernant Jésus. Jean nous dit que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, qui est la vie et la lumière des hommes. Nous comprenons par lui tout le plan de Dieu. Nous voyons en lui le chemin vers Dieu. Nous avons en lui le pardon, la paix et la grâce de Dieu. Le Père nous a finalement parlé par le Fils, à qui il a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, afin que toute la création s'incline de gré ou de force devant le seul Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, le Créateur, notre grand Dieu Jésus-Christ. Il nous a annoncé l'entier conseil de Dieu et l'a lui-même accompli afin de nous montrer la voie à suivre. Nous avons donc en Jésus-Christ un parfait modèle et aucune raison, aucune excuse valable pour ne pas savoir comment nous comporter. En effet, le verset 12, dans le chapitre 2 de Tite, nous dit que cette grâce de Dieu révélée, c'est-à-dire Jésus-Christ, le verset 12 nous dit donc que cette grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie d'impiété et à renoncer aux convoitises de ce monde pour vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Frères et sœurs, il est extrêmement important qu'on se rappelle qu'il va y avoir des noces. Et ces noces seront les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Ce sont les noces de l'agneau, n'est-ce pas ? Heureux celui qui est l'ami du marié, car la joie débordante de l'époux remplira la coupe des invités. Leur coupe débordera de la vie, de la paix et de la gloire du Fils unique. Mais sommes-nous invités ? Là est la question. Et si nous avons été invités, avons-nous pris suffisamment d'huile pour que nos lampes brûlent jusqu'à la fin ? Ou allons-nous devoir rebrousser chemin et trouver finalement que la porte est fermée ? En d'autres termes, sommes-nous en train dès maintenant de préparer notre chemin jusqu'à Christ et de préparer son retour ? Ou sommes-nous négligents et oublions-nous que notre vie ici passe comme la fleur des champs, comme l'herbe ? Quel type de vie sommes-nous en train de mener ? Est-ce une vie digne du scandale de la croix ? Ou est-ce une piété extérieure qui cache un cœur rebelle que, en vérité, Dieu voit ? Avons-nous renoncé à notre vie ? Le Seigneur est clair. Certains seront sauvés, d'autres non. Et c'est à leurs fruits qu'on les distinguera, ainsi qu'à leur espérance. Que souhaitons-nous profondément ? Quelle est notre véritable espérance ? Quels sont nos désirs profonds ? Si nous les connaissons, nous saurons si nous sommes sur le chemin étroit. Et si ce n'est pas le cas, c'est une mauvaise chose, mais il est encore temps, aujourd'hui. Le Seigneur dit « aujourd'hui est le jour favorable, aujourd'hui est le jour du salut ». Nous devons aussi nous poser la question « est-ce la gloire de Dieu que nous recherchons ou est-ce la gloire des hommes ? La nôtre peut-être ? J'aimerais lire avec vous un texte dans 1 Pierre 1, verset 14, et on s'approchera de la conclusion pour aujourd'hui. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 14, et on va aller jusqu'au verset 11 du chapitre 2. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou comme l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Verset 19. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et qui lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez été purifiés, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous donc de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Et je me pose la question, arrivé à ce passage, combien de fois ai-je honte de Jésus-Christ ? Et quel paradoxe et quelle tristesse d'avoir honte de Jésus-Christ. Celui-là même qui va à ceux qui auront cru à lui, en lui, les asseoir à côté de lui dans la gloire. Verset 7. Elle est donc précieuse, cette pierre, pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et enfin, le verset 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Est-ce que ces derniers versets nous décrivent ? Est-ce que nous sommes de ceux, par la grâce de Dieu, qui renonçons à nos propres vies, qui renonçons à nos propres désirs anciens et qui laissons l'Esprit de Dieu nous transformer ? J'aime à réaliser, en lisant ces versets, que, à moins d'être aveuglé par l'orgueil, tous ces versets ne peuvent pas nous flatter. À chaque fois que je lis ces versets, je dois demander pardon à Dieu humblement et reconnaître, oui, Seigneur, je ne suis pas ce que tu voudrais que je sois. Mais réjouissons-nous et disons comme Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et faisons en sorte de pouvoir dire que la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été sans fruit. C'est un réconfort. Même si nous voyons que nous sommes loin encore d'être ce que Dieu veut, laissons au moins la grâce de Dieu nous y faire rapprocher. Nous voyons combien nous sommes encore loin d'avoir renoncé à toute impiété et aux convoitises du monde. Nous manquons de sagesse, de justice, de piété. Avant de passer à la conclusion, juste une question. J'aimerais qu'on puisse lever la main. Ceux qui lisent la Bible une fois tous les 3 jours, une fois tous les 2 jours à peu près. Un jour sur deux ou un jour sur trois, peu importe. Au moins un jour sur trois, maximum un jour sur deux. D'accord. La question m'a été posée et ça m'a travaillé, c'est pour ça que je me permets de la reposer. Lorsqu'on lit la parole de Dieu un jour sur deux, ça veut dire qu'en une année, on laisse 6 mois de côté la parole de Dieu. Si on la lit seulement un jour sur trois, ça veut dire que dans toute une année, sur 12 mois, nous lisons la parole de Dieu 4 mois et puis nous la laissons sous la poussière. Et c'est pareil pour la prière. Nous avons besoin d'apprendre à nous discipliner, non pas pour devenir religieux, mais pour connaître Christ. Quelle joie plus grande que de connaître celui qui a vécu une vie parfaite et qui a daigné la livrer pour nous, alors que nous ne le méritions pas. Je veux connaître Christ pour ma part et je veux me discipliner à le connaître à travers ce qu'il nous a laissé, sa parole. Pour récapituler et conclure, la grâce de Dieu, Jésus-Christ, a été révélée. Il est tout à fait suffisant pour notre salut et ne tolère pas la concurrence dans notre cœur, ce serait insulter sa gloire. D'avoir Christ pour Dieu et à côté des idoles telles que l'argent, les passions, les possessions, la nourriture, le confort, la réputation, le sexe, le divertissement et que sais-je encore. C'est une insulte à la gloire de Dieu d'avoir un si grand Dieu et de le mettre en concurrence avec des choses créées qui ne peuvent pas nous remplir. Et que Dieu nous pardonne, et que Dieu me pardonne de toutes les fois où je l'ai mis en concurrence avec des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes. Je ne parle pas de diaboliser quoi que ce soit, mais juste d'avoir les priorités là où elles doivent être. Christ étant la parole de Dieu, la lumière des hommes, le seul chemin vers le royaume céleste, tout, comme Paul le dit, doit être considéré comme de la boue. Oh, la gloire de Dieu, la gloire de Christ, si vous l'avez vue, n'endurcissez pas votre cœur et ne passez pas à côté de la grâce de le connaître pendant votre séjour ici-bas. Le seul chemin est celui tracé par son esprit qui sanctifie par la vérité de la parole de Dieu. Je le redis une fois. Le seul chemin est celui tracé par son esprit qui sanctifie par la vérité de la parole de Dieu. Christ va revenir et il connaît ceux qui lui appartiennent, dit la parole. N'a-t-il pas demandé à certains « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous demande ?» Le dernier verset 14 donc de Tite, chapitre 2, nous dit et nous explique le plan glorieux de Dieu. Et on conclura avec ce verset. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Nous, chrétiens protestants ou assimilés protestants, évangéliques, quelles que soient les dénominations qu'on se donne, mais en tout cas qui aimons la parole de Dieu, la Bible, nous avons malheureusement par une opposition qui était justifiée à certaines thèses de l'Église catholique, nous avons mis l'emphase sur la grâce de Dieu, le fait que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, sans les œuvres. Et c'est vrai. Mais le risque, et nous sommes tombés d'ailleurs dedans, c'est que nous avons oublié que cette grâce, comme ça a été lu tout à l'heure dans Romains 6, n'est pas une excuse pour ne pas vivre conformément à la volonté de Dieu. Alors saisissons la grâce de Dieu pleinement et courons, courons vers les belles œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et réalisons que toutes les belles œuvres que nous ferons pour la gloire de Dieu, c'est la parure de Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus glorieux et beau. Et merci Seigneur parce que tu nous as pris avec toi comme ouvriers, nous qui sommes si faillibles, si inutiles. Tu prends plaisir à travailler avec nous, Seigneur. Prions. Père Saint, nous voulons nous placer devant toi et reconnaître notre faillite, notre banqueroute, à être ce que tu souhaites que nous soyons. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous avons tellement d'idoles dans le cœur, nous avons tellement de plaisir autre que toi. Mais Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a été prêché au monde entier. Et nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant capable de nous sauver de nos péchés. Nous voulons te prier pour que ton Esprit, ton Saint-Esprit qui sanctifie, nous conduise dans la sainteté. Et nous voulons prendre plaisir en toi, Seigneur. Nous voulons apprendre à prendre plaisir en toi, Seigneur. À nous satisfaire de qui tu es, de ce que tu nous donnes. Nous voulons pouvoir dire comme Jésus, quant à moi, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son plan. Merci Père, parce que tu es patient et que cette patience nous pousse à nous montrer dignes de ton appel. Je te bénis pour l'Église, je te bénis Père pour la communion fraternelle, parce que nous pouvons nous encourager les uns les autres et nous exciter à de bonnes œuvres. Donne-nous de l'amour les uns pour les autres, Seigneur, et donne-nous à genoux fidèlement d'attendre le retour de Christ. Au nom de Jésus. Amen.